A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
La Syrie brûle, Nanda Mohammad aussi. C'est une comédienne qui brûle les planches. Il se trouve qu'elle est syrienne. Mais Nanda Mohammad aimerait exister dans votre regard d'abord en tant que comédienne très active sur les scènes du Moyen-Orient. Cela dit, les lames de feu qui l'ont poussée hors de Damas dès 2012 l'inspirent sûrement dans ces mots qu'elle projette en ce moment sur la scène du tarmac à Paris, dans une mise en scène toute nue d'Ahmed El Attar et qui raconte l'Égypte avant 2011. Avant la révolution, c'est le titre. Bonjour et malhaba, Nanda Mohammad.
Malhaba et bonjour Yasmine, tout le monde.
Merci de nous accorder cette interview en français.
Merci à vous aussi.
Sur scène, un carré de lumière, à l'intérieur duquel il y a deux individus, un homme, interprété par Ramzi Lehner, et puis vous, Nanda. Alors dites-nous comment, une petite chose comme ça pratique, vous êtes habillée sur scène?
c'est drôle un peu peut-être et c'est on est habillé les mêmes choses en fait moi et Ramzi sauf qu'il a un papillon
un nœud papillon
une papillon une chemise blanche avec je sais pas comment on dit en français
bretelles
oui des bretelles violettes et des pantalons gris.
On a l'image.
Ouais.
Avant la révolution, commence par ces mots.
قبل الثورة في شهر رمضان كان في 39 مسلسل.
لا. 41 مسلسل. يمكن كانوا 42.
يعني حاجة 40. كان في مسلسل منهم بيحكي عن رجل أعمال بيفقد ذاكرته. بيلاقي نفسه في الشارع فبيفضل يمشي 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 لحد ما يلاقي نفسه في حارة شعبية الناس على قدها ويغمى عليه
Air comme révolution
Alors voilà, cette pièce d'Ahmed El Attar commence en disant qu'avant la révolution en Égypte, il y avait une quarantaine de séries télé dont une qui racontait l'histoire d'un homme d'affaires qui marche, qui marche, qui marche dans la rue et qui tout à coup perd la mémoire. Et là, il se retrouve dans un quartier populaire. Et qu'est-ce qui lui arrive, Nanda Mohammad ?
Les gens dans le quartier ils lui aident pour continuer sa vie. Et il continue sa vie sans savoir qu'il était méchant, il était très, très mauvais avec les gens avant.
Il fait sa vie quand même, hein. Il se marie.
Ouais, il fait sa vie, tout à fait. Il se marie avec une femme très
populaire
dans le quartier. Et après, il y a une femme de sa famille qui vient par hasard dans le quartier. Il se voit.
Il le reconnaît.
Il le reconnaît. Et la famille essaye de vraiment rester avec lui et rester comme avant.
Essaye de faire en sorte qu'il redevienne méchant, cruel, l'homme d'affaires qu'il était
c'est
avant.
Ça. Et c'est pas pour dire que le télé est important artistiquement, mais pour dire que c'est important pour les gens en Égypte et pour les gens au Moyen-Orient en général.
Alors s'ensuit, après cette histoire, issue de cette série télé égyptienne, une très longue liste de noms égyptiens avec leur adresse. À quoi correspond cette liste ?
En fait, moi je dis la liste quand Ramzi il commence à dire un texte sur la torture. Et la liste de noms que je dis, c'est pas une liste en fait des gens qui ont été torturés ou prisonniers, mais c'est une liste des gens ordinaires, quoi.
Pourquoi cette liste de gens ordinaires ?
Parce que ça va arriver peut-être avec n'importe qui.
La torture ?
La torture en Syrie, en Égypte, partout. Et toujours les noms, ils sont pas très importants pour les gens. En général, c'est juste l'histoire ou les nombres. Mais c'est toujours important, je crois, qu'on dit les noms.
Alors on remonte le fil de tous les petits événements, les micro-événements qui auraient dû peut-être alerter le pouvoir égyptien avant la révolution. Et par exemple, Pour l'écrivain égyptien Farag Foda, dont on a entendu parler sur nos antennes, le 8 juin 1992 a été terrible.
يوم 8 يونيو 1992 خرج المفكر المصري فرج فودة من مكتبه في شارع أسماء فهمي في مصر الجديدة علشان يركب عربيته. لما اعترضوا شابين راكبين موتوسيكل ومعاهم مدافع رشاشة، الاثنين ضربوا عليه النار وقتلوه. قبضت قوات الأمن على اللي نفذوا العملية وحولوهم للمحكمة. في المحكمة سأل القاضي أحد المتهمين: أنت قتلته ليه؟ رد عليه المتهم وقال له: علشان كافر ومرتد. فسأله القاضي: أنت قريت كتبه عشان تعرف إذا كان كافر ولا مرتد؟ فرد عليه المتهم وقال له:
Extrait en sol majeur de Avant la Révolution avec Ramzi Lenner et vous, Nanda Mohammed, sur la scène du Tarmac à Paris en ce moment. Alors, qu'est-il arrivé à cet écrivain égyptien, Farag Foda, le 8 juin 92 ?
Il était mort.
Assassiné ?
Oui.
Et on lui a demandé au cours du procès pour quelle raison,
ouais.
Est-ce qu'il avait lu les écrits de ce Farag Foda ? Réponse ?
Et il a dit: moi je connais pas, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à écrire, mais ils ont me dit de faire ça.
On m'a dit que c'était un mécréant, que c'était, ouais, un apostat. Alors, cette liste de micro-événements avec des assassinats, avec des disparitions, toujours avant la révolution de 2011, cette accumulation d'événements provoque une drôle de sensation pour nous spectateurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la révolution était déjà là avant 2011.
C'est vrai, il y avait beaucoup d'événements graves avant la révolution. Et il y a toujours des choses comme ça, même maintenant. Là, Ahmed, il a essayé de chercher comment on peut dire que là, avant la révolution, on n'était pas dans une vie en rose, quoi. Mmh.
Donc le metteur en scène a travaillé en rassemblant des coupures de presse, quoi d'autre ?
Des scènes personnelles aussi. Ahmed, il travaille toujours sur le texte pendant le travail, en fait. Il travaille avec les gens, il dit c'est quoi le personnage à chacun, mais il dit pas le texte ça va être quoi. Parce que là, il y a pas une histoire, en fait.
Oui, vous dites que vous jouez, mais en fait, vous n'incarnez pas vraiment un personnage.
Oui, c'est ça.
Nanda Mohammed.
C'est ça, en plus, il y a pas un personnage et on bouge pas. On joue que avec la voix et le visage. On n'a que le texte avec,
oui,
nous.
Sur
que
scène, aucun décor, aucun accessoire. Et je me demandais justement...
Il y a juste le petit plateau qui est...
On dirait qu'il y a des clous qui sortent.
Des clous qui sortent.
Du
il
n'y
a
plateau.
Que des clous autour de nous.
Vous êtes comme dans une prison, comme dans une incarcération.
Oui, si vous voulez.
Et justement, comment exprimer sur le plateau la période de censure dont a été victime l'Égypte?
Mais il faut savoir qu'on n'a pas joué en Égypte jusqu'à maintenant. Ahmed va demander d'avoir la tisorisation.
L'autorisation.
La Et j'espère qu'on va jouer. On va être vraiment très contents si on joue au Caire.
Donc vous êtes pendant presque une heure immobile, face, ouais, publique, avec votre partenaire. La violence, je dirais, se ressent pendant cette heure de théâtre, surtout dans une scène en particulier, c'est la scène du viol, où vous dites les mots d'une jeune domestique qui est en train de rapporter d'abord un café et puis un verre d'eau à son patron, qui de fil en aiguille la traite de garce et lui demande de lui faire une fellation. Et vous, Nanda Mohammed, comédienne, vous êtes toujours face publique quand vous livrez ce texte. Et là, vous êtes à la limite du jeu. Comment vous avez travaillé cette partition-là ?
Moi, j'ai essayé de juste imaginer la fille avec l'homme qui veut juste faire oral sexe avec elle, et juste imaginer comment il peut pas dire non, comment elle doit finir l'action. Et ce mélange-là m'a donné beaucoup de choses sans vraiment essayer de faire beaucoup de choses.
Est-ce que le fait d'être syrienne vous a aidé, vous a servi pour rentrer dans ce texte qui raconte les prémices de la révolution égyptienne?
Je crois oui, parce que avant la révolution en Syrie, c'était plus grave qu'en Égypte. C'est vrai qu'en Égypte, il y a aussi un dictateur, et il y avait un dictateur avant, mais quand même, notre dictateur, ils sont plus graves que les dictateurs en Égypte.
Pardonnez ma petite question audacieuse, Nanda Mohammed, vous aviez quel âge en 1987?
1987?
8 ans.
J'avais 8 ans, oui.
En tout cas, le 11 septembre 1987, donc bien avant la révolution, la Syrie se trouvait être le pays organisateur des Jeux méditerranéens. Alors pour l'image, il faut imaginer 18 nations, c'est le faste, hein. Il faut, ça vous fait rire avec la distance. Ouais. Il faut imaginer 1996 athlètes avec le champion du pouvoir sur le tapis rouge devant les caméras du monde entier, Hafez al-Assad. Pour le son, ça donne ça.
M comme machine à remonter le temps.
Ça a le mérite de vous rendre le sourire, Nanda Mohammed. Alors, ouais. Ces Jeux méditerranéens qui se déroulaient à Latakia en Syrie, donc pays organisateur, de quoi vous vous souvenez par rapport à ces Jeux méditerranéens?
Oui, ce jour-là, c'était vraiment un jour qui est très, très spécial pour moi. Toute la famille, et là, ma grand-mère, elle a dit on doit tous regarder la télé. C'était la première fois pour la Syrie d'organiser une chose comme ça. Et là, elle a fait la cuisine, toute la famille venait pour voir avec nous le event. Et l'électricité, elle était coupée. On a juste vu 5 minutes, quoi.
Oui, d'accord.
Et c'était normal pour nous avec l'électricité, sauf que c'était vraiment un jour...
Un événement, ouais, c'est ça. Exceptionnel.
Et ma mère, elle est vraiment drôle. Elle a essayé d'imaginer, il y a quoi là maintenant, Latakia, les gens font quoi et on savait qu'il y avait un chanteur qui s'appelle Naïm Hamdi. Et là, même mon oncle, peut-être, il a fait une chanson de Naïm Hamdi comme ça.
Donc le spectacle était dans le salon,
ouais, c'est ça,
de la famille. Pour mémoire, quoi, l'Italie est arrivée première, hein, cette année-là, et la Yougoslavie deuxième. Vous vous souvenez du classement de la Syrie?
Je crois qu'on a eu un...
Vous étiez sixième.
Sixième,
ce qui était bien. 87 a été aussi une année glorieuse pour la Syrie, puisque cette année-là, Mohamed Fares... Ouais. Premier cosmonaute syrien, le 22 juillet 1987, s'envole sur Soyouz TM3. Il passe 7 jours, 23 heures et 5 minutes dans l'espace. Et puis, vous avez eu la gentillesse de nous envoyer un document où on l'entend s'exprimer en direct à la télévision. Alors, avec coupure d'électricité ou pas, ça je ne sais pas. Mais il s'exprime en direct avec le président.
احترامي سيد الرئيس اني اسمعكم جيدا وانا مسرورا جدا بهذا اللقاء
وصلتني تحيتك واشكرك واشكر قائد الرحله الرفيق رومانيكو وارجو ان تبلغ شكري لكل رفاقك الفضائيين السوفييت.
Pour en sol majeur sur RFI, Hafez al-Assad en grande discussion avec le premier cosmonaute syrien dans votre en sol majeur, Nanda Mohammed. Qu'est-ce qu'ils se disent, ces deux grands hommes?
Ouais. Ils disent, là, le président, il demandait s'il est bien, s'il est content. Et Mohamed Fares, il dit, oui, je suis content parce que je te vois.
Alors, le plus fou dans son parcours à ce cosmonaute, c'est que en 2012, donc un an après la révolution, à 61 ans, ce général Mohamed Fares rejoint les rebelles de l'armée syrienne libre.
C'est ça. Là, quand j'ai vu que Mohamed Fares, il a choisi d'être avec les gens dans les rues, quoi. Il a dit en direct parole contre le président Bachar. Et c'était quelque chose pour moi.
C'était une immense joie, une fierté.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est un héros national le pays.
Ouais. Et parce qu'aussi, il n'a pas vraiment gagné beaucoup d'être un héros national en Syrie. Il a gagné rien, en fait.
Et puis vous vous souvenez, et finalement tout est lié entre tous ces souvenirs, vous vous souvenez aussi de la mort d'un certain Bassel el-Assad en 1994. C'était qui ?
C'était le fils de Hafez el-Assad.
L'aîné, le fils aîné,
oui.
Qui devait accéder au trône en fait.
Ouais. Déjà Hafez, il a fait tout pour préparer Bassel pour être un président après lui. Et quand il était mort, et c'était la choc pour tout le monde.
Il est mort dans un accident de voiture.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous pensez que Bassel aurait fait un meilleur président que Bachar ?
Non, je crois pas. Non. Moi, je crois que les frères, ils sont les fils de Hafez al-Assad, le grand dictateur. Et par contre, les gens disent tout le temps qu'il va être plus mauvais que Bachar. Et c'est horrible de vraiment penser à quelqu'un qui peut être plus mauvais que Bachar.
On se promènera tout à l'heure dans votre Syrie d'avant la révolution, Nanda Mohamed, et dans votre métier de comédienne. Mais là, on va se mettre toutes les deux un petit peu d'eyeliner, de tatouage aussi sur la peau, et puis de coiffure 60s façon Amy Winehouse, disparue en 2011,
ouais,
hein, cela dit. Quelle année ? Pourquoi Amy Winehouse ?
Parce que j'adore Amy Winehouse. Moi, j'adore les chansons, j'adore la façon de Amy Winehouse, et aussi parce que je trouve qu'elle était vraie avec elle-même.
He left no time to regret. Kept his dick wet with his same old safe bed. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. Yo, you went back. Why, you know, so far from all that we went through, and I tread a troubled track. My odds are stacked. I go back to black. Us, I love you much. It's not enough. You love blow, and I love puff. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny.
Back to Black avec l'acoustique Amy Winehouse sur RFI. Notre invitée, la comédienne syrienne Nanda Mohamed, is back en sol majeur, elle aussi, dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Pleinement comédienne, née syrienne, Nanda Mohammed est déjà un pied dedans et un pied dehors. Après avoir rejoint par amour l'Égypte en 2012, elle arpente aujourd'hui les scènes françaises et les séries télé libanaises ou égyptiennes, avec des textes qui disent souvent le monde arabe avant la révolution, à voir justement en ce moment au Tarmac à Paris, cette mise en scène de l'égyptien Ahmed El Attar, déjà célébrée d'ailleurs par notre festival d'Avignon en France. Un pied dedans dans la tragédie arabe, un pied dehors dans le hors-champ des révolutions arabes. In and out, c'est peut-être Nanda Mohammed.
حين كنت طفلة هل كنت تحلمين؟
Enfant, est-ce que vous rêviez de faire la révolution?
De faire la révolution, je sais pas. J'avais la chance d'être avec une famille qui est adorable.
Donc vous êtes née à Damas, vous avez été élevée en partie par vos grands-parents. Mm-hmm. Je ne sais pas si on peut parler de famille révolutionnaire, mais en tout cas, une famille communiste, ouais. Avec notamment un oncle connu politiquement en Syrie, un certain Khaled Bagdash. Mm.
Il est l'oncle de ma grand-mère. Et oui, la famille était communiste.
Et lui-même, cet oncle, était le fondateur, un des fondateurs du Parti communiste.
Il était le fondateur du Parti communiste en Syrie. Les années 80, ce n'était pas vraiment des années faciles pour les gens en Syrie. On était embloqués.
Embrigadés.
Oui. Là, par exemple, pour nous, les enfants dans la famille, on a eu la chance, par exemple, d'avoir des bananes. Parce que c'était pas vraiment très facile d'avoir des bananes en Syrie. Et c'était interdit de prendre une banane avec moi à l'école parce qu'il y a les enfants qui connaissent pas les bananes. Si je le dessine, une banane, il va peut-être penser que c'est la lune, en fait.
Double vie, même politiquement. Parce que grandir dans une famille communiste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce parti était toléré par le parti Baas de Hafez el-Assad? Je rappelle que le baathisme, c'est ce socialisme arabe qui se voulait être un mix entre... l'islam et le socialisme. Donc ça veut dire que dans la famille communiste, on n'était pas musulman, en tout cas musulman pratiquant?
Non, on n'était pas musulman pratiquant.
Est-ce que c'était facile à vivre, ça?
Non, c'était pas toujours facile à vivre. Parce que presque tout le monde, pas tout le monde, mais il y avait beaucoup de gens qui disent qu'on est mulhidine, sans religieux, comme ça.
Mécréant.
Mécréant. Athée. Merci. Et c'était pas très facile de comprendre ça quand on était des enfants, en fait. Parce que la chose qui était bien dans ma famille personnelle, on a eu la chance de vraiment choisir si on veut être des communistes ou pas. Et ça, c'était grâce à ma grand-mère, qui était vraiment exceptionnelle.
Exceptionnel. C'est bien aussi, comme vous le dites. Et tout ça se passe, vous insistez sur les années 80, et vous faites sans doute référence à cette période où c'est très compliqué pour les frères musulmans qui sont la cible du pouvoir de Hafez al-Assad. On se souvient du massacre à Hama en 1982, où après une insurrection de l'organisation des frères musulmans, ils sont sévèrement réprimés par l'armée.
Et ça, le massacre de Hama, c'était connu pour tout le monde en Syrie. Et il y a presque personne qui a parlé sur ça. Parce que si on parle sur ça, il y a le régime qui va faire la même chose avec n'importe qui.
Votre enfance, Nanda Mohammed, se déroule donc entre Damas, un petit peu la Suède, où votre père est parti vivre, un petit peu la Jordanie, où d'ailleurs votre mère, je crois, vit, votre mère qui est maquilleuse, donc elle est dans le milieu du cinéma.
Le théâtre et le cinéma.
Alors justement, j'allais vous demander comment le goût du théâtre est-il arrivé dans votre vie?
C'était grâce à ma mère. parce que comme elle était divorcée, elle a beaucoup travaillé au théâtre. Et moi, j'étais presque tout le temps avec elle. Je ne sais pas quand j'ai décidé d'être une comédienne, mais je suis sûre que ça commençait là-bas.
Donc, vous commencez vos études de théâtre en 97 au Conservatoire de Damas. Et puis, au moment du déclenchement de la Révolution, on se demande ce que vous faites, où vous êtes. Et ben, vous êtes en tournée à ce moment-là avec un spectacle de Mohamed El-Attar, sous direction de Omar Abou Saada, pour n'oublier personne. Un spectacle qui s'appelle « Could you please look into the camera ?» Est-ce que vous pourriez regarder dans la caméra ?
Oui, on a fait ce spectacle-là en 2012, les répétitions à Damas, mais on n'a pas joué en Syrie. Moi, j'ai joué Noura, une fille qui veut faire un film, des interviews avec des gens qui ont été prisonniers pendant la Révolution, pour vraiment comprendre c'est quoi la Révolution. On voit la personnage avec son frère qui est contre la Révolution, qui essaye de parler avec elle pour arrêter tout ça, pour ne pas filmer ça, pour ne pas aller très loin avec le sujet. Et en fait, à la fin du spectacle, il était en prison à cause de le film.
Mmh. Donc en tout cas, c'était un spectacle qui était dans le mouvement de l'histoire.
Oui.
Parallèlement, vous participez un peu à votre manière à cette révolution syrienne. Vous me disiez joliment, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas sur la terre. C'est-à-dire que vous évoquiez les réseaux sociaux sur lesquels vous communiquiez à propos de cette révolution, en tentant de réunir notamment de l'argent via des sites sur le net. Cela dit, en 2014, retour à la comédienne que vous êtes, vous coachez, toujours en complicité avec le metteur en scène syrien Mohamed El-Attar, vous coachez à Amman, la capitale de la Jordanie, les Troyennes de Ripide, avec, et c'est là que c'est intéressant, pour la distribution des femmes réfugiées syriennes. Mmh. Et ça a donné lieu à un film intitulé « Queen of Syria ». Alors on va proposer aux auditeurs dans Sol majeur un gros plan sur une Syrienne. Elle est de profil, elle porte le niqab, tout en disant ces mots. « Regarde-moi, tu trouveras une tragédie marchant sur ses deux jambes. Ô mère, j'étais la femme d'un grand leader. »
انظري إلي وستجدين مأساة تمشي على ساقين كنت أيتها الأم زوجته عيد
وأنا صغيرة الحلم إني مثل كنت
J'ai toujours rêvé d'être actrice. Je n'arrive pas à croire que mon rêve s'est réalisé, seulement à cause de ce qui s'est passé dans mon pays. Ce n'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se passe.
Vous vivez dans un présent plein de chagrin pendant que votre âme aspire à un passé heureux. Cette partie de la pièce me fait beaucoup pleurer. On a quitté notre ville. Il y avait beaucoup de bombardements. Je voulais trouver une vie meilleure pour mes enfants. La pièce évoque quelque chose de réel pour nous. C'est vieux, mais l'histoire se répète.
En Sol majeur, donc, avec 50 femmes syriennes réfugiées à Amman en Jordanie et qui, pendant 6 semaines, ont adapté Euripide à la réalité syrienne, vous diriez, Nanda Mohamed ?
Oui, parce qu'on a, essayé d'adapter le texte par rapport à leur histoire.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette expérience avec des femmes qui n'avaient jamais fait de théâtre ?
C'était magnifique. C'était très compliqué, difficile, mais magnifique. Moi, j'ai fait le acting coach pour eux. J'ai vu comment c'était très difficile pour eux au début de jouer et d'être sur scène comme ça.
En étant dans un camp de réfugiés, hein ?
Oui. Mais quand j'ai vu comment elle était nécessaire de dire leur histoire pour eux, j'ai vu la confiance et la transformation. Et ça, pour moi, dans le niveau humain et le niveau artistique, c'était très important parce que j'ai vu que quand c'est nécessaire pour vous, quand c'est vraiment
vital,
vous pouvez le faire. Parce que moi, pour moi, comme une comédienne, moi, j'essaie toujours de chercher et d'avoir quelque chose très touchant pour moi. Quelque chose, même avec n'importe quel personnage, j'essaie tout le temps
connecter
de...
Connecter au réel.
Oui, connecter au réel, c'est ça. Et de vraiment mettre moi-même dans l'état de cette personnage-là.
Donc ces femmes réfugiées sont dans un état que vous recherchez, vous, en tant que comédienne?
C'est ça, mais... N'oubliez pas qu'ils ont des réfugiés en même temps. Et ce n'était pas très facile pour moi de vraiment prendre
la comédienne,
ouais,
dans la femme réfugiée.
Ouais, ouais.
En tout cas, le théâtre, on le comprend, c'est toute votre vie à vous, Nanda Mohammed. Et puis, le Mektoub vous a même mis sur la route, et peut-être même dans la forêt, d'une certaine Ariane Nouchkine, qui travaille depuis longtemps via le Théâtre du Soleil à Paris, avec des gens venus d'ailleurs, cambodgiens, syriens, afghans.
Je pense que le théâtre, c'est l'autre. Le théâtre, c'est vraiment l'art de l'autre. Un acteur, il devient l'autre. Donc s'il ne comprend pas, s'il n'aime pas l'autre, tout simplement, ce n'est pas possible.
Hey.
L'étranger, pour moi, ce n'est pas les Cambodgiens ou les Afghans.
Ah, comme ?
L'étranger, c'est les Khmers Rouges. L'étranger, c'est l'islamisme. Voilà, pour moi, c'est l'étranger.
Atterrissage forcé.
Définition, la belle définition de l'étranger dans la bouche d'Ariane Nouchkine, que vous avez rencontrée tout en douceur en France en 2004. C'était votre première fois en France, oui. Nanda Mohammed. Alors vous qui avez fait un stage au Théâtre du Soleil avec la grande Ariane, vous qui avez fait le conservatoire de Damas en Syrie, qu'est-ce que vous avez appris de fondamentalement différent chez Ariane Nouchkine?
Je peux dire que au Théâtre du Soleil, j'ai pris le discipline.
La discipline.
La discipline. Et il faut que je dise que moi, j'ai pris le français par l'oreille.
Magnifique. Mais est-ce que vous avez eu l'impression, en travaillant avec elle, qu'elle vous connectait justement peut-être à votre culture arabe dans votre travail de comédienne?
Oui, parce que là le travail d'Ariane, c'est vraiment international. Parce que là, par exemple, à l'Institut à Damas, on n'a rien fait par rapport aux masques de Commedia dell'arte, on sait rien. C'est très, très difficile de jouer avec les masques. Et il y a les techniques, les règles qui sont très difficiles. Et pour moi, c'était la première fois de vraiment jouer sans parler. Il y avait nous, des acteurs syriens avec des acteurs français. Il y avait beaucoup de gens qui ne parlent pas même ni l'arabe ni le français. Et on a eu la chance de vraiment faire un troupe comme ça avec nous-mêmes. Et aussi, j'ai vu que la vie de théâtre n'est pas facile là-bas.
C'est la vie communautaire.
C'est ça. Hein. Et j'ai vu que si je veux décider de continuer au théâtre, ça sera génial peut-être, mais ça sera pas facile.
Alors il y a des drames qui sont un peu à la mode. Vous le savez bien, Nanda Mohammed. Est-ce que vous avez peur de ça, d'être un petit peu perçue comme la Syrienne de service à la mode en ce moment?
Oui, c'est vrai. Parce que là, moi je crois que presque tous les festivals, quand ils invitent des projets syriens, parce qu'on est maintenant under the light.
Sous les projecteurs.
Oui, c'est ça. Et il faut savoir qu'avant, il y avait personne peut-être qui est intéressant vraiment de chercher, de savoir quelque chose sur l'art en Syrie. Mais il ne faut pas, de toute façon, penser à ça. Pour moi, je sais que là, maintenant, dans l'Europe, les gens ils sont intéressés de me voir parce que je suis syrienne. Et ça, ce n'est pas bien pour moi. Mais j'essaie toujours de faire les choses avec une qualité artistique qui est bien. Et j'essaie toujours de dire que je savais la vérité, mais je ne suis pas avec ça.
Aujourd'hui, en tout cas, vous jouez en arabe, sans doute que vous pourriez jouer en anglais, mais vous êtes aussi capable de jouer en français. Vous l'avez fait d'ailleurs en 2015, dans La justice des poissons, un spectacle pour une comédienne et une contrebasse. Mmh. C'est un texte qui puise dans la Bible l'histoire du meurtre originel, ouais, et qui fait la nuance entre le meurtre volontaire et le meurtre par inadvertance. Mmh. C'est un texte politique, apparemment. Est-ce que vous diriez que vous êtes une comédienne engagée ?
Comment ?
Engagée. Est-ce que vous êtes dans une démarche politique en tant que comédienne ?
Oui, je peux dire ça. Je ne sais pas si on peut raconter des histoires maintenant qui ne sont pas connectées à notre vie. Et je ne dis pas que nécessairement d'avoir des politiques spectacles, mais là maintenant, ma vie, c'est comme ça. Il y a la guerre en Syrie, moi je suis engagée avec ça. Je réfléchis toujours à comment je peux continuer avec tout ça dans ma vie. Peut-être, il y avait beaucoup de moments que je me suis dit, je vais faire quelque chose de drôle. Je veux vraiment être sur scène avec quelqu'un juste pour rire, de faire une comédie. J'aimerais bien faire ça, mais peut-être...
C'est pas l'heure.
C'est pas l'heure.
Ce qui vous donne des ailes, en tout cas, Nanda Mohammed, aujourd'hui, c'est certaines figures du monde. Et c'est par exemple, vous me l'avez soufflé à l'oreille, le chant de Maya Angelou ou bien la folie de Nina Simone.
Is my necklace beautiful? It is from Greece and Claude gave it to me. It is antique and it's over 200 years old and it's meant for a queen and I am a queen. I know you are jolted because you're suddenly it occurs to you that it might be true. Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. Hey girl, sit down. Sit down.
When it look like the sun wasn't gonna shine anymore, God put a rainbow in the clouds. Imagine.
Ah, ces femmes. Je vais vous laisser réagir au petit écran qui vient de défiler dans nos oreilles pour un sol majeur, Nanda Mohammed.
Nina Simone, qui est Nina Simone, qui est
folle, comme
folle,
on aime.
Magnifique, vraie, courageux. Et avec la plus belle voix dans ma vie. Et après, il y a Maya qui, elle dit que...
Maya Angelou.
Oui,
hein.
Maya Angelou, qui dit...
Rainbow in the clouds.
Rainbow in the clouds. Je ne sais pas comment on dit en français.
Arc-en-ciel dans les nuages.
Ouais. Elle dit, j'avais beaucoup de gens qui ont été rainbow in my clouds dans certains moments dans ma vie. Et j'essaie toujours de faire la même chose avec les gens. Elle demande à nous d'être un rainbow.
Un arc-en-ciel.
Ouais, arc-en-ciel dans les clouds. Parce qu'on a, tous des clouds dans notre vie. Et on a besoin.
Des nuages.
Ouais, c'est ça.
Alors, un petit mot quand même sur Maya Angelou, qui est, je le rappelle, la figure majeure du mouvement américain pour les droits civiques. C'est vrai que sa voix touche d'autant plus nos auditeurs sur RFI qu'il y a ce drame révélé dernièrement du côté de la Libye, où on vend des migrants noirs aux enchères. Est-ce que vous, Nanda Mohammed, vous reconnaissez qu'il y a un racisme anti-noir dans nos chers pays arabes ?
Oui. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais petite fille, on a eu la guerre entre la Syrie et Israël. Et il y avait des Syriens qui est venu de Qunaitra, la ville juste en frontière avec Palestine. Et les Syriens de Qunaitra, ils ont un peu moins...
ils ont la peau ?
Oui, ils ont
un peu noire.
Un peu, pas noire, mais
un peu sombre.
Un peu sombre, plus que la majorité à Damas. Et je me souviens très bien que c'était presque interdit de jouer avec les enfants de ces familles-là. Et en plus, c'était normal, quoi. Ils ont été des Syriens. qui est venu à cause de la guerre. Et
il y avait un racisme déjà entre Syriens.
C'est ça. Et j'ai pas pensé beaucoup à ça quand j'étais petite fille. Mais franchement, après, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que c'était évident. C'était là, quoi. Là, par exemple, moi, je suis pas très sombre par rapport à mes cousines. Et c'était plus à l'aise pour moi d'être avec les gens parce que les gens disent « Ah, Nanda, tu es belle, t'es un... »
Sous-entendu, tu es blanche.
Tu es blanche. Et c'était juste en face de les cousines qui sont pas tout à fait blanches. Oui. Il y avait ça dans la série. Et je crois que là, en Égypte, je suis sûre qu'il existe aussi.
Vous avez quitté la Syrie en 2012, Nanda, par amour, hein, puisque vous êtes mariée à un Égyptien. La Syrienne se sent comment alors dans cette Égypte ? Honestly, honnêtement.
Là pour moi ça va parce que mon mari il est Égyptien, j'ai le papier, mais si vous n'êtes pas comme ça, vous ne voulez pas avoir une résidence...
pas de travail, pas de logement.
Si, vous pouvez travailler, mais sans la résidence, vous ne voulez pas faire un aller-retour. À cause de ça, vous ne voulez pas aller pour voir votre famille, d'ailleurs, et ni la famille pouvait venir au Caire, en Égypte, parce que là, maintenant, les Syriens ils sont interdits d'entrer l'Égypte, sauf avec un visa qui personne ne connaît. C'est quoi ce visa-là? J'ai pas commencé à avoir une nouvelle vie facilement en Égypte. Par exemple, j'ai pas fait une fête de mariage parce que à 2012, moi j'ai cru que Bachar el-Assad va tomber
tout de suite
quoi. Et j'ai demandé à mon mari de ne pas faire, de rien faire parce que je lui dis, écoute, Bachar el-Assad va tomber tout de suite, on va aller à Damas tous les deux, on va faire quelque chose là-bas avec tout le monde quoi. Et j'étais un peu naïf, quoi. Peut-être jusqu'à maintenant, je sais pas. Mais j'ai beaucoup pensé à ça et j'ai arrêté ma vie. Et il y avait un moment que j'ai décidé de connaître le Caire pour vraiment chercher comment je peux continuer ma vie.
Vous diriez que vous êtes une arabe en pleine métamorphose, en pleine transformation?
Non.
Not negotiable.
Non. Oui, je suis arabe, je suis née en Syrie, je suis syrienne, d'origine kurde aussi. Mais à la fin, moi je m'en fous de vraiment dire que c'est que ça qui m'intéresse et que c'est que ça qui me fait en fait.
Qui vous définit.
Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est très nécessaire de ne pas oublier la racine et aussi de ne pas oublier ce que tout ça m'a conçu, mais il y a beaucoup des autres choses qui sont aussi très importantes pour moi.
Avoir de toute urgence au tarmac à Paris en ce moment, avant la révolution d'Ahmed El Attar avec Ramzi Lanner et puis vous, Nanda Mohamed. Comment est-ce qu'on dit bonne chance en arabe ?
Mouafaa.
Mouafaa. حيا حيا حياك علم اللفان اليوم من صربت
من صربتن بديرة الريان يا طير يلي بالمنايا تحوم هود على اللي بالوطن خوان يا 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 طير يلي بالمنايا تحوم هاود هود على اللي بالوطن خوان الطال ظهر السبا يدوم ومن فوق ضمر كلهم عقبان أبطال بظهر السبايا دو من فوق ضمر كلهم عقبان يا ديرتي يا ديرتي يا مالك علينا لوم لا تعتبي لومك على من
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Jessica Oublié. À demain.